matar, o dia de hoje, o anarquista, não? O barato, o conhecido, o sotero, o estudioso, o filho do povo, o filho do povo, et ensuite, après l'engagement du mariage par la lecture de la Pouda, il y a un nouveau figure qui s'appelle Echelon Rachel. Bon. Alors, en réalité, originellement, il y avait là deux rites radicalement différents. Le premier figure, c'est celui des fiançailles et le mariage. Le deuxième figure, c'est celui de la fin des fiançailles lorsque la femme quitte la maison de ses parents pour entrer dans la maison de son mari. C'est un figure de bénédiction de Messira la Rachel. En fait, la tradition a cumulé les deux, comment dire, les deux cérémonies pour la rédemption. Dès le moment des fiançailles, toutes les lois concernant le mariage jouent entre cet homme et cette femme. En particulier, ce qu'on appelle en général l'unité issue, c'est-à-dire le fait qu'il y a un lien exclusif entre cet homme et cette femme, et que par conséquent, toutes les lois qui traitent de l'adultère sont déjà valables dès le moment des fiançailles. Même s'il n'y a pas encore le commencement de la vie en commun qu'on appelle en français le mariage, à partir du mariage. Est-ce que c'est clair? Alors, il y a un certain nombre de termes différents, mais vous familiariserez pour les apprendre. Le moment où une femme accepte de devenir la femme d'un homme s'appelle kiddushin. L'acte qui consiste à se lier l'un à l'autre s'appelle kiddushin. Donc le premier kiddush, c'est le kiddush et Aroun, ça veut dire un fiancé. Et une signe, ça veut dire le chanteur. D'ailleurs, je ne crois pas. Missouli, c'est un autre mot qui signifie le fait du mariage. Et inassé. Ça veut dire se porter l'un l'autre. Et inassé. Certains traduisent je suis porté, c'est l'expérience. Mais en tout cas, c'est ton nom, Benarous. Ça n'a rien à voir avec Arous. Arous, c'est ça. Arous, c'est ça. Et le. Donc, dès le moment de l'Eritzim, tous les dîners et les lois qui président à l'intégrité du couple sont valables. Et par conséquent, étant donné la gravité de ces lois, par exemple, une femme mariée n'a pas le droit de s'isoler avec un autre homme dans une chambre fermée, si elle nécessite des gens, je ne sais pas, dans un bureau, je ne sais pas quoi, il peut laisser plier une porte ou une fenêtre ouverte. Ça, c'est une chose. Et parce que une femme qui est en question de se marier, mais le mariage n'est pas encore réalisé, est très vulnérable. Afin de faire la psychologie des profondeurs, mais vous comprenez ça très vite. Par conséquent, la tradition a jugé que, étant donné le niveau de moralité de cette génération en génération, il ne fallait pas exposer à des risques graves d'adultère avant même que le mariage ne soit fait, et on a relié les deux cérémonies. C'est-à-dire le premier kiddush, c'est-à-dire la fiançaille qui est le mariage lui-même, et ensuite la choupa, le shelav rachot, qui est la bénédiction de ce mariage. C'est volontaire. Vous avez déjà remarqué d'ailleurs qu'au moment du deuxième kiddush, on met le talit sur les deux fiancés, sur les deux mariés, c'est à ce moment-là que la choupa commence, à proprement parler. Et juste, on le laisse prendre que le discours du rabbin, comme ça ils n'ont pas le temps de penser à autre chose de dangereux. Et on va. On s'est habitué alors au préalable, avant cela, au moment de la décision des deux, non seulement des deux fiancés, mais de l'accord des deux familles, pour qu'il n'y ait pas de problème, à faire une cérémonie avant même les fiançailles, mariage et la choupa qui se font en même temps, et qui s'appelle les knaïm. Vous avez entendu ce mot-là? Les knaïm, vous avez les conditions du mariage. Ce que vous appelez maintenant les fiançailles. Mais ça change rien au problème, parce que dès que les knaïm sont faits, on considère que les fiançailles sont déjà des fiançailles, et par conséquent, il vaut mieux faire le mariage le plus rapidement possible. Vous avez compris le. Alors, je reviens à notre problème. Ce verset, Le'ahavta le'acha kamocha, est donc d'abord enseigné par la Gemara, à propos des rapports entre l'homme et la femme et son mari, avant même d'être enseigné à propos de la relation de Dieu avec qui il s'agit des frères. C'est bien clair. Et d'après la cohérence enseignée dans la Torah, tout homme, quel qu'il soit, est premièrement considéré comme le frère de tout homme, quel qu'il soit. Puisqu'il a un seul cœur unique à l'origine, qui est. Alors, donc, c'est ce qu'on apprend de Caïn de et Abel. Alors, je vais le verset de la Torah.
Et tengo que hablar de lo que sigue bien. Reaja, reaja, cama. No es que es México y este, ¿no? Si salía de salmo, con la traducción de le sens de la traducción global de tout à l'heure, il faut le préciser. Si ça veut dire simplement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, avec le sens premier que, au moins, comme tu t'aimes toi-même. Et est-ce qu'on a besoin d'inverser tout ça? C'était la question de base. Eh bien, le texte aurait porté une toute autre forme. Il y aurait, je le résume en hébreu, et à ta l'éra, l'éra, que l'éra. Tu es, on voit, puisqu'il y a. Et un fameux, tu aimeras pour ton prochain, littéralement, comme pour toi, et non pas comme toi. Donc le mot de Kamocha, c'est une appréciation, un réa. Alors d'abord, la racine de réa, hein, le réa, est-ce que vous connaissez un mot qui ressemble à réa, hein, de la même racine, une racine voisine. Réa. Réa. Si vous prononciez comme les Yéménites, vous savez. Oh, ouais, et ça dit Roy. Hmm? Roy. Roy. Inverse. Et le second lieu, oui. Réacha, vous pouvez le relier à le Roy, c'est-à-dire celui qui fait partie de la même communauté. Alors, comparé avec un autre verset qui est un commandement d'amour, mais le commandement d'amour qui est dans le cher Shema, Ve'arta et Hashem. Ici, la racine c'est Aro, la même machine, mais Aro et. Alors que là c'est Aro le. Quelle est la différence? Qu'est-ce que le terme de et définit? Le complément d'objet. C'est-à-dire, le complément d'objet légitime de l'amour, c'est toujours Hachem. Si je fais dévier l'amour que je dois à Hachem, ça s'appelle comment en théologie du terme? Par exemple, quand un homme dit à une femme, je t'adore. On ne se rend pas compte que c'est du délire. Donc, si substituer un objet de la femme, à l'objet légitime qui doit être Hachem avec les femmes, substitué à un autre objet. Vous suivez? Alors c'est une règle absolue. Chaque fois que c'est Dieu qui est désigné comme l'objet de l'amour, c'est Dieu à l'être. Chaque fois que c'est qui que ce soit, quoi que ce soit d'autre, un amour légitime que nous allons voir, c'est Dieu à l'être. Est-ce que c'est clair? Il y a une exception. Et il y a tout un chapitre d'Amani dans la Mishnah Torah là-dessus, mais on n'a pas d'accord. C'est le verset qui commande l'amour pour le cœur. Là, il est écrit « Ve'ahavta et la guerre » et non pas « Ve'ahavta la guerre ». J'ai compris pourquoi. Et dans la Gemara, il m'a dit de le prendre, ça veut dire que dans l'amour pour le cœur, il y a deux commandements. Il y a d'abord l'amour du prochain comme tout prochain, et en plus, de façon plus particulière, l'amour du guerre comme tel, qui doit être de la même nature que l'amour pour Dieu. Je n'ai pas le temps de vous dérouler tout cela, mais retenez au moins en tout cas le principe. Retenez bien. C'est-à-dire que l'amour que l'on doit au guerre, comme on l'a dit, c'est-à-dire que l'étranger qui est devenu comme toi-même. Et la Torah emploie l'expression qui dit pour l'amour de Dieu. Donc il y a deux commandements dans le monde. Et alors, indépendamment de cette exception, c'est vrai, l'amour du guerre, la faute, ça consisterait d'employer la motivation de l'amour, non avec le être qui marque la forme transitive du complément d'objet, quoi que ce soit d'ordre de Dieu lui-même. Ici, l'amour pour le prochain, et c'est là que nous retrouvons ce problème triangulaire dont je vous parlais. C'est que l'amour qui doit aller à Hachem soit dépassé par le prochain. C'est-à-dire que tu aimeras Hachem le Kécha, mais pour le prochain. Et Hachem le Kécha, l'Elera. Et c'est ce qui m'a dit là. à la variation de chacun et chacun, ce que j'ai laissé, et à la l'éréacha, kamoucha anihachéna. Ça veut dire qu'il y a le fait que là, vous ne pouvez pas tout faire Dieu, mais que vous pouvez passer par autrui. Autrui sera le relais entre l'amour que vous pouvez donner à Dieu, entre Dieu. C'est clair? D'où, je reviens au point de départ de l'analyse, le sens de ça se fixe sur autrui comme tel, et ça se dit dans le monde. C'est clair? Alors voilà, vous avez une question là-dessus? Vous avez compris la vidéo? La chayaracha, c'est que de la bénédiction. Il y a un autre verset pour l'amour des créatures en général. C'est-à-dire, enfin, j'ai compris de cette question, je ne sais pas si vous en avez parlé dans les cours. Il y a deux perspectives radicalement différentes. La première, qui découle du monothéisme simple que représente la Bible, c'est que toutes les créatures sont les créatures du Dieu unique. D'accord. Alors, la nécessité d'avoir un commandement particulier pour le prochain pose un problème différent. Ça veut dire que peut-être qu'on va approcher par ce biais du problème général. Comment se fait-il que la Torah ait jugé nécessaire d'ériger en commandement la relation d'amour? C'est précisément parce que c'est pour celui qui est le plus proche que l'amour est le plus difficile. Et c'est la raison pour laquelle c'est dans ce cas limite de la difficulté que la Torah formule un commandement en particulier. Est-ce que c'est vrai que c'est possible? Je vous donnerai même un exemple dans les évangiles, comment ça a été dit. La formule qui est employée dans les évangiles, qui doit vivre de l'ancienne manière. Ça veut dire que dans la mentalité contemporaine, cela décèle une chute de la moralité. Dans la mentalité contemporaine, on fait le considérer comme anormal le fait d'être interpellé, en particulier pour l'amour du prochain, c'est-à-dire de celui qui est le plus proche de toi. C'est ce commandement-là. Il ne s'agit pas du commandement de l'amour des créatures en général, ici. Okay. Et on voudrait l'interpréter et l'appliquer, au contraire, à celui qui n'est pas proche, à l'étranger. Alors que pour l'étranger, il y a un tout autre commandement. C'est-à-dire, ce que je veux mettre en évidence, c'est que pour la Torah, l'accent doit être mis sur le fait qu'il y a une obligation particulière d'aimer le plus proche que soi. Pourquoi? Parce que c'est par définition ce qui sont les niveaux. Celui qui est loin, l'amour que j'aurai pour lui est gratuit, n'engage à rien. Est-ce que c'est clair? Vous voyez donc ce qui s'est passé dans la mentalité de la culture contemporaine. On est choqué du commandement. Tu aimeras ton prochain, qui tu en essaies de te justifier. Non, ton prochain, ça veut dire n'importe qui d'autre. C'est faux. Ton prochain, ça veut dire le plus proche que toi. Parce que c'est là qu'est le risque de la violence. Peut-être. Vous avez bien compris l'idée? Et justement, cette attitude, cette mentalité qui consiste à dire non, c'est pas le proche duquel la Torah a parlé, c'est le lointain, eh bien, ça prouve que précisément on a refusé le principe même de ce Torah. Est-ce que c'est vrai? Bon.
Pas tout proche. Il y a une histoire en fait de la salle de la vie.
Entre qui et qui? Mais c'est pas les Lubavitch, ça c'est le sens strict. Mais ils ont raison, c'est le pshat.
C'est vrai?
Déjà, mais j'ai pas commencé. Non, faites attention. Et bon, ça fait un autre problème. Ne croyez pas que c'est la Torah Lubavitch. C'est la Torah Stam. Ça veut dire cela. Il y a un commandement particulier d'avoir à aimer celui qui est précisément le plus proche de toi. Parce que là, il y a un danger qui peut résoudre. Est-ce que vous avez compris l'analyse que j'ai faite tout à l'heure? Dire, tu aimeras ton lointain comme toi-même, ça t'engage à toi. Et précisément, ceux qui parlent beaucoup d'amour du prochain, et en général, ça ne rate pas. Il y a des gens qui parlent de l'amour du prochain, mon Dieu, comme c'est beau. Okay? Mais ils sortent de, je ne sais pas comment dire, de leur discours. Et dès qu'ils sont mis en rapport avec le prochain vraiment, je ne complicise pas. Hein? Tout le contraire. La méfiance de ces gens-là. Précisément là, il y a une difficulté qui pourrait venir. Comme je vous ai signalé tout à l'heure, la formule dans l'évangile, c'est aimez-vous les uns les autres. Bon. À qui a été dite cette formule? Parce que vous avez une foi qui n'est pas encore. À qui a été dit dans les évangiles aimez-vous les uns les autres? D'accord aux apôtres eux-mêmes, ceux qui étaient envoyés en Jésus.
Alors, avant de les envoyer, on leur a dit, aimez-vous les uns les autres, faites attention. Si vous avez la même vocation, vous allez commencer à vous jalouser, vous allez dire, si j'anime, alors faites attention, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est clair? C'est dans le même sens. Vous avez bien compris. Vous savez très bien que les pires rivalités, c'est entre les gens les plus proches, avec les gens lointains. C'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Ça s'appelle la xénophobie, ça s'appelle tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas le problème de la rivalité des frères entre eux. C'est clair? Alors je reviens juste au verset pour vous montrer ça, on reprendra ça demain, si on a la chance de pouvoir. C'est que le mot de kamocha est en opposition à l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il est kamocha, parce qu'il est comme toi. Et dans deux sens, tu me dis tout de suite, il est comme toi, on l'a vu tout à l'heure, une créature du même lieu, et il est comme toi dans la situation où tu es, de voir l'autre comme le rival. Il en veut que ce commandement s'applique pour le prochain qui est comme toi. Parce que pour le prochain qui n'est pas comme toi, c'est un autre commandement de l'amour du prochain qui est donné à moi. Celui-là conserve le proche. Est-ce que c'est clair? Si je sais, je traduirai, mais ce n'est pas le sens. Tu aimeras ton voisin, c'est-à-dire ton autre proche, comme toi. Peut-être parce qu'il est comme toi. Et on a montré qu'effectivement, le nom de Réa a les mêmes lettres que le nom de Ra, qui signifie le mal. Ça veut dire que chacun, naturellement, a tendance à voir le mal chez l'autre de lui. Alors le verset répond, il est comme toi. Pour lui aussi, c'est toi le mal. Donc il y a réciprocité. Est-ce que c'est vrai? Bon. Alors qu'est-ce qu'on a vu à présent? Deux choses. Premièrement, l'importance de ce verset. Et deuxièmement, le fait qu'il porte entre milieu sur le rapport entre l'homme et sa femme, la femme et son mari. On enchaînera donc demain. Hein? Le fait qu'il y ait trois textes montre que c'est un thème qui se répète, et par conséquent que c'est un thème d'identité important dans ce que représente l'histoire des patriarches. Alors je vais m'évoquer en introduction, simplement vous donner un principe général, qui servira d'ailleurs pour beaucoup d'autres thèmes. C'est le fait que nous avons suivi au début de l'année que depuis Adam Arichon jusqu'à l'époque d'Abraham, il y a une irida, comment dire, une chute. Il y a des dates là, une chute dans l'envergure de l'humanité humaine à l'échelle des générations. Ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, il n'y ait pas eu des êtres d'élite, comme on dit en français, qui représente la ligne que vous avez étudiée avec le séminaire de Genevos, je vous avais lu, du Tselemeloki qui se continue, du Ainianaïloki qui se continue. Ça veut dire que ce que je dis là ne signifie pas que la valeur de l'identité humaine était complètement dégradée de génération en génération, depuis Adam Arichon jusqu'au temps d'Abraham, de façon globale. C'est-à-dire pas généralisé dans ce principe que je vous dis. C'est à l'échelle individuelle. Il y avait, selon certaines traditions, d'ailleurs on appelle les grands initiés, c'est une expression française qui ne s'adapte pas très bien au vocabulaire traditionnel des juifs, c'est trop prophète, garder cette expression, c'est exactement ce à quoi fait allusion Judas-Lu lorsqu'il parle du Ainianaïloki à l'échelle de l'individu. Et au contraire, dans le développement du Ainianaïloki à l'échelle de l'individu, il y a un progrès, une ascension, puisque la matrice d'engendrement de l'humanité va arriver à travers la famille d'Abraham, en particulier c'est le mérite de son père de façon immédiate, mais surtout de son ancêtre, à travers la lignée de Shem, a engendré l'identité d'Abraham. Et comme vous vous rappelez, après les trois niveaux de sélection d'identité qui mènent à Jacob, l'Ainianaïloki va devenir une identité collective d'un peuple entier qui est Israël, les descendants de Jacob et les enfants d'Abraham. Sur un point précis que nous avons commencé à étudier hier, Abraham va prendre le relais de ce qui déjà était apparu au niveau de l'identité d'Adam Arichon. Alors nous allons prendre les questions de base. Jusqu'à Adam Arichon, la relation de ce qu'on appellera plus tard la relation des sexes, si vous voulez, en tout cas la relation des deux polarités de l'identité de l'être vivant, de la créature, à travers laquelle se fait l'engendrement, elle est telle qu'on l'apprend au niveau de l'animal, que c'est en préfiguration que cela
que nous trouvons dans les espèces animales ce que va représenter la relation entre l'homme et la femme dans l'espèce humaine. Vous savez, ceux qui ont étudié ce problème, que la nature, comme on dit en général dans les sciences, parce qu'on ne sait pas très bien comment en parler, a différentes stratégies du point de vue des environnements. C'est-à-dire, chez les êtres vivants, il n'y a pas que l'accouplement qui, je ne sais pas, je prends le terme grossier, donc j'emploie le terme analysis, qui est la stratégie unique et principale de l'environnement. Il y a, je ne sais pas, si l'environnement a utilisé ce problème-là, il y avait par exemple ce qu'on appelle la sissiparité. La sissiparité, vous avez écouté ? Et le fait qu'une cellule peut se séparer en deux et engendrer donc deux individus. Il peut y avoir des auto-fécondations, il peut y avoir enfin toutes sortes de stratégies pour perpétuer à travers l'espèce en général le véhicule de la vie individuelle. Ou inversement, à travers le véhicule de la vie individuelle, l'identité de l'espèce. Et la relation du couple, elle est préfigurée, bien entendu, dans le niveau le plus évolué des espèces animales, mais elle est une relation de sexe à sexe, à travers laquelle il y a une force impersonnelle qui rencontre une force impersonnelle. C'est le yeti. Une petite parenthèse tout de suite, mais à ce niveau-là, le vocabulaire est très précis, très simple, Zahar Negera. C'est qu'on traduit dans le vocabulaire humain, ça finit par prendre une connotation un peu grossière, mâle et femelle. Ça ne veut pas dire que femelle c'est bien et que mâle c'est mal, c'est comme ça que ça marche. Alors, il y a une mutation d'identité. Au niveau de Adam Arichon, et pour mettre ce terme, il y a quelque chose de plus qui apparaît, c'est plus. Alors là, la traduction précise, c'est. C'est pas homme et femme, c'est époux et vous. Je peux presser en France. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une reconnaissance d'autrui à autrui dans ce qu'on pourrait définir un vis-à-vis, de visage à visage. Je vous explique sous forme de description, alors que l'identité humaine, Adam, vous est définie comme étant côte à côte. L'être qui était aux côtés, à côté, l'un de l'autre, est séparé et mis à la place. Et donc, il y a là un problème. C'est-à-dire la reconnaissance d'autrui dans la dimension intérieure de l'identité humaine, puisque dans la dimension extérieure, il s'agit de la relation de frère à frère, Cain et Abel, vous rappelez de cette expression, elle va finalement. Être situé. Attends, à ce moment-là, je vais essayer de me. Je ne sais pas qui me fait un clin d'œil là-bas. Et de se situer au niveau du vis-à-vis. Retenez, simplement au niveau sémantique, il y a un lien avec la circoncision, puisque c'est la même racine qui dit vis-à-vis et qui dit la circoncision. Et on est capable de se parler face à face. Et le mot qui dit le mot dans le langage, mila, c'est le même mot qui veut dire la circoncision. Et le verbe, c'est la moule. Et moule, ça veut dire vis-à-vis. On retenait cela en passant. Effectivement, selon la tradition, Adam est né circoncis. Ça veut dire qu'il y a une sorte de réserve dans la relation brute de sexe à sexe qui risque, comme c'est souvent le cas à travers la stratégie sexuelle, d'être en conflit, et cette réserve est marquée par la mitzvah de la circoncision, le fait, disons, de la circoncision. Vous comprendrez mieux ces choses-là quand vous approfondirez ce dont il est parlé. Donc voilà qu'au niveau de Adam Arichon, il y a ce progrès. En réfléchissant bien à cette première donnée, c'est plus seulement Zahar ou Keva, il y a toujours le risque que ça retombe là, mais c'est devenu Ish-Isha. Alors, lorsque Abraham va prendre le relais du progrès de l'identité humaine à tous les niveaux, en particulier dans le niveau de la capacité d'être frère. Dans le langage de Lévi, pour reprendre ce même langage, parce qu'Abraham va commencer à instaurer cette mutation de niveau du Aïnian Aïloki, qui va concerner une collectivité entre elles, et ça commence, une collectivité entière et ça commence à travers lui, alors il va aussi prendre en relais ce problème en particulier. Et on apprend, d'après ce premier récit, qu'il ne suffit pas pour que la relation entre l'homme et la femme trouve son achèvement, si vous voulez, pour employer un mot que vous avez déjà employé, son petit coup, qu'il y ait la relation époux-épouse. Il faut que ce soit complété par la relation frère-sœur. Alors, retenez bien cette première introduction, ce premier principe. Pourquoi ce thème nous est raconté par la Torah de façon aussi insistante au niveau des patriarches? C'est parce que ça prend le relais d'un progrès dans l'identité de la créature qui avait déjà émergé de façon très importante au niveau de Adam et Chava, mais ça s'était dégradé. Est-ce que c'est bien justement? C'est-à-dire qu'on reprend ce même problème au niveau du relais que représente l'identité des patriarches. Alors, je vais vous lire ce texte pour montrer, en passant, les invraisemblances s'il s'agissait uniquement d'une anecdote des mœurs de l'époque, dans le texte même, et à travers quoi se dégagera, quel est le principe qui se cherche dans ce problème. Alors, Vayi Rahav Baaretz. Là, c'est un des premiers textes. Je pense d'ailleurs que historiquement, c'est le premier dans l'histoire d'Abraham, où la Torah nous indique la cause de l'exil. Vayi Rahav, il y a eu une famine dans le pays. Alors, il y a une famine dans le pays, et donc on voit qu'Abraham va voyager. Il va voyager en direction du sud, et en fin de compte, il va arriver jusqu'en Égypte. Vaïssa, Abraham, c'est vrai. Vayi Rahav Baaretz, Vayi Rahav Abraham, Mitzrayma, et Abraham descendit en direction de l'Égypte, vous voyez que c'est une irida, la gourcha. Ça vous est déjà familier, la gour, ça veut dire pour y séjourner provisoirement. Tikare d'Arab, car la famine était forte dans le pays. Je vais quand même vous parler de ce point-là. Vous connaissez le principe, puisqu'on a étudié dans une des Mishnayot, on a étudié à propos des problèmes de la Shoah. Que tout celui qui habite en dehors du pays d'Israël pourrait être considéré comme étant enlevé la religion. Vous rappelez de ça. En fait, il y a un principe de la halakha qui est interdit de quitter Eretz Israël. Qui est interdit de quitter Eretz Israël. Je laisse un petit suspense, je vous dis ça à la fin de l'année. C'est un dîme du Shulchan Aruch strict. À moins qu'il y ait une raison valable. Et là, la halakha a établi quelles sont ses raisons graves, et en particulier lorsqu'il y a famine, et qu'on ne peut plus vivre au niveau purement, je ne sais pas comment dire, je ne vais pas dire standing économique d'indice X, mais au niveau élémentaire. Alors il y a autorisation d'aller chercher le pain ailleurs. Mais ici se greffe un thème assez important. Nous allons voir que c'est le moment où Abraham a un message à porter. Abraham a un message à porter, et alors la stratégie de la Providence le mène à entreprendre le voyage où il portera ce message. Cette famine à laquelle il fait allusion ici, c'est le fait qu'il y a famine sur la terre. Le pshat, ça veut dire qu'il n'y avait pas à manger en Eretz Israël. Et si vous prenez les mêmes termes, il y a famine sur terre, sur la terre. Il s'agit de la famine du manque de l'essentiel de ce qui fait vivre l'homme, et la civilisation de ce temps est en crise très grave. Il y a famine sur la terre. Alors Abraham commence à voyager. Mais il arrive, car Hachem écrit la Bo Mitzrayim. Lorsqu'il s'approchait d'aller en Égypte, Vayomer et Sarah Ishtou, et il dit à Sarah et sa femme, Inena Yadarti, voici je sais, Kisha Yefat Mare At, que tu es une femme. Littéralement, ça veut dire belle d'apparence, que tu es belle. Tout de suite, la Midrash intérieure dit comment il attend ce moment-là pour savoir que sa femme est belle, il ne l'avait jamais vue. Je vous donne une réponse très très rapide, je pense que vous allez comprendre, sinon je n'analyserai plus. Il ne l'avait jamais vue avec les yeux d'un Égyptien. J'ai compris. Il arrive à la frontière d'Égypte, et alors il dit à sa femme, je sais que tu es belle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais de quel objet de désir tu risques d'être dans les yeux de Jésus. Il arrive à la frontière, on lui demandait, il n'avait rien à déclarer. Alors il m'a dit, je vous déclare que ma femme est belle. Alors imaginez la suite. Et le Midrash dit, je vous interprète tout simplement ce que dit le Midrash. Il n'avait jamais regardé impudiquement. Alors, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, il l'a regardé impudiquement, mais il a compris ce que pouvait être le regard de l'Égyptien. Est-ce que c'est clair? L'Égyptien, ce n'est pas du racisme anti-égyptien en particulier. Ça veut dire de celui, de l'homme de culture, et la culture égyptienne était une culture à sa manière très, très élaborée, de l'homme de culture qui n'a pas les mêmes équations de l'identité morale qui sont en travail dans l'identité des patriarches. C'est-à-dire la dignité dure de la relation à autrui. Le premier autrui, l'autre qui est moi, c'est la femme. Est-ce que c'est clair? Bon. Et d'autant plus que, et ce serait la première invraisemblance, si on voyait le récit seulement au niveau anecdotique, d'autant plus que nous savons de façon extrêmement précise qu'à ce moment-là, Abraham avait 100 ans et Sarah avait 90 ans. Donc, ça va jusque-là? Et il arrivera, ou au Tachamitrim, comme je disais tout à l'heure, lorsque les Égyptiens te verront, et ils diront, Ishto Zot, celle-là et sa femme, scandale, Vergou Oti, nous tuerons, Léotach, Echaïu, et toi, ils te laisseront vivre. Alors, le texte ne dit pas, afin, ils me tueront, parce qu'ils vont tuer le gêneur, et puis toi, et s'il y avait déjà tout ce danger-là, t'en vas pas en Égypte. Il y a un petit problème. Si vous remontez toutes les explications qui disent, mais comment Abraham n'a pas eu confiance, et alors qu'il savait l'objet de la promesse depuis le début de l'Echlecha, et s'est exposé à un tel danger de faire que sa femme soit prise par les Égyptiens, vous comprenez à quel point c'est invraisemblable. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que c'est vraiment un des récits qu'on ne peut pas prendre au niveau purement et simplement anecdotique. D'autant plus qu'il se commence trois fois sous une forme un peu différente. Donc je reviens intentionnellement là-dessus. C'est la découverte d'un thème d'identité extrêmement important. Oui. Alors là, je vais vous citer le commentaire du Malbim, qui a donné une précision extrêmement importante. Il dit parce que le type de beauté qu'il connaît vis-à-vis de sa femme était connu des Égyptiens. C'était la beauté des lignées royales. Et je dirais même que l'intention du Malbim, c'est pas du tout précisé comme ça dans le Malbim, mais je pourrais dire que l'intention du Malbim est à peu près ce dont parle Yehuda Halevi. C'est-à-dire que les grandes dynasties royales, les grandes sociétés traditionnelles de ce temps, avaient connaissance de quelque chose d'analogue à ce qu'on appelle, nous, dans le langage de Yehuda Halevi, la Inyanaïk. Je ne vais pas essayer de faire un effort de mémoire ou d'imagination, ce n'est pas après cela dans vos études générales, c'est que les lignées royales se sont toujours définies comme étant d'une nature divine différente que les pecnos, je ne sais pas comment on dit ça, le pecus, je vous parlais plus. D'accord, mais comment on dit ça en français? Par exemple, vous savez que jusqu'à notre temps encore, les dynasties royales ne se marient qu'entre elles, et peu importe la nation de laquelle elles font partie. Okay? Par exemple, le roi de Hongrie, même s'il n'y a plus de princesse en Hongrie, prendrait une italienne, mais jamais une hongroise. Une princesse italienne, mais jamais. Vous savez ça. Et tous ces jurons qui sont restés du Moyen-Âge, du temps du sang bleu. Et qu'est-ce que c'est que le sang bleu? Par exemple, pas le sang bleu. Pas le sang bleu, c'est tout simplement la prononciation du Moyen-Âge de par le sang bleu. Et je crois que ça vous est familier, okay? Et ça ne veut pas dire que ce n'était pas vrai. Il y avait effectivement des lignées humaines, disons d'une autre nature, à travers l'évolution des familles, à travers les tolados de chacune des familles, qui étaient finalement d'une nature différente que les autres. C'était des lignées royales, et ça se fabrique artificiellement. J'ai compris que, pour nous, dans notre mentalité de démocratie contemporaine, on fait semblant de ne pas tenir compte de données de ce genre. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et, or, dans les dynasties royales, les grandes sociétés traditionnelles de l'Antiquité, c'était pour pouvoir préserver précisément ce sang bleu, si j'ose dire, pour pouvoir préserver la lignée royale, la règle était que les princes se marient avec leurs sœurs. Voyez donc la différente équation. Au niveau, chez les Égyptiens, il s'agit du type de beauté que c'est blasphématoire que une telle femme soit la femme de quelqu'un qui n'est pas le pharaon. Tout simplement. OK. Et oui, donc, l'équation qui se met en place. Chez les Égyptiens, c'est de sa sœur qu'on faisait sa femme. Alors que l'équation biblique qui va être proposée, c'est exactement l'inverse. Il faut arriver à faire de sa femme sa sœur. Voilà, vous avez l'essentiel. Est-ce que c'est mérité? C'est mérité, et on va aller. Vous avez compris? Bon, je crois que chacun à votre manière, vous pouvez faire la suite de l'exposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vous donnerai quelques catégories traditionnelles à ce sujet. Oui, mais le blasphème, ce serait qu'une femme de cette qualité soit la femme d'un étranger, un hébreu. Si elle est, je veux dire, et si elle vous met dans les mœurs de l'époque, Abraham n'a plus à manger chez lui. Il a demandé l'hospitalité en Égypte. Il n'a plus à faire. Et il y a une différence de statut, quelle que soit la manière dont il va être reconnu comme prince de Dieu, il n'est pas prince de Dieu pour l'Égypte. Essayez de comprendre que, d'abord, nous découvrons un thème qu'il faut définir au niveau abstrait. Essayez de comprendre dans les situations concrètes. Vous savez très bien que les principes qui vont de soi dans les théories et dans les livres, dès que les sociétés se heurtent dans la vie, tous ces principes ne vont plus. Vous voulez que je vous donne la dernière nouvelle que j'ai lue à propos de ce qui se passe au Liban, il y a deux ou trois jours. C'est quand même de découvrir. Vous savez qu'au Liban, il y a les chrétiens et les musulmans qui s'étripent du jour au matin, du jour au soir, du jour à la nuit. Je ne sais plus comment dire. Il y a des gens en même. Alors, les Libanais chrétiens bien que Libanais ou Libanais bien que chrétiens, je ne sais pas comment il faut dire, c'est 2000 ans de tradition chrétienne. Et les musulmans, c'est l'islam, tout ce que vous voulez, pendant 1400 ans. Et bien voilà, la dernière chose à laquelle ils ont décidé de jouer, c'est de se massacrer. Et pour bien mettre ce massacre, ils se mangent le foie, le cerveau. Voilà. Aujourd'hui, actuellement, au Liban à côté, l'ONU ne décidant pas de Barada Frakira. Comment vous dites ça en français? J'ai remis ça. Tout ça paraît dans les journaux, tranquillement, on passe à autre chose. Ça veut dire que si vous lisez le livre où il y a la charte de la culture chrétienne, alors aucune musulmane ne dira à son mari, fais attention, ne va pas à Beyrouth, t'as envie de te manger. Vous avez compris? Tu le vois? Bien, sinon. Après, mais je suis persuadé que vous avez lu dans la littérature contemporaine tous les livres des littérateurs marginaux de justification du cannibalisme. Non, ce n'est pas comme ça. Non. Oui, c'est le cannibale de Phénicie. Bon. Voilà quel est le problème. Bien sûr que Abraham n'est pas être reçu comme un dignitaire. Il fait partie d'une autre lignée de Yénéo qui aurait des Égyptiens. Admettons cette explication. Encore une fois, je vous ai cité mal dit, mais je vous interprète à la manière de vous dire. Oui, mais il y a des clauses, c'est l'étranger. Et Sarah, on va se l'annexer à la destinée de l'Égypte. Regardez la fin du verset 12. « Ve'arguoti ve'otar yechay » Ils me tueront et toi ils te laisseront. Vous retrouverez la même expression au début de Shemot, lorsque le pharaon décide de tuer tous les garçons hébreux et de laisser vivre les filles pour s'annexer la matrice hébraïque dans l'histoire égyptienne. La même chose. Vous vous rappelez de ça? Verset 13. Imrina Achoti At. Dis donc, mais lisez bien avec moi. Achoti At. Ma sœur, tu es. Mais si elle doit le dire, elle doit dire Achiru, il est mon frère. Ou à la rigueur, Achoto Ani. Je suis sa sœur. C'est là que se met en place cette découverte qu'Abraham doit faire à Sarah, jusqu'à ce que Sarah reconnaisse non seulement qu'elle est la sœur d'Abraham, mais qu'il est son frère, et finalement ça va se dévoiler avec Isaac et Rebecca, où cette dialectique de découverte réciproque est achevée. Et nous verrons au moins le verset qui l'indique à propos de Isaac. Les mains à l'établi va ouvrir, afin qu'il y ait du bien pour moi grâce à toi, les chaïta nafshir glaler. Et que ma personne vive grâce à toi. Mais entendez-le en hébreu. Il n'y a aucune allusion au bien que pourraient lui faire les Égyptiens ou le laisser en vie. Il s'agit de la destinée de sa propre personne. Reconnais cela que tu es ma sœur, Je vais le traduire un peu à rythme plus haut. Afin que mon âme vive. C'est clair? Vu qu'on a changé de régime, il s'agit plus de ce qui se passe au poste de douane. Hein? D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y avait un poste de douane à l'époque. C'est maintenant qu'on fait, depuis le temps des patriarches, on a installé un poste de douane entre l'Égypte et Israël. Vous savez jusque-là? D'abord, bon. Alors, ça part apparemment d'une péripétie historique, mais que je formulerai de cette manière, après un voyage, il a un message à déclarer. Voilà, qu'est-ce qu'il a à dire dans son voyage? S'il a un message, une vocation dans son exil, c'est de dire quoi? Il dit, voilà, j'ai fait une découverte. Ma femme, c'est ma soeur. Je vais paraphraser. Alors les Égyptiens vont dire, ah, ta femme, c'est ta soeur, donc elle est disponible, on peut te la prendre. Et alors, après, ils vont découvrir, ah, mais c'était ta femme. Ah oui, mais c'est aussi ma soeur, mais vous ne pouvez pas comprendre. Et puis, on renvoie ça à un temps de culture, on arrivera à le comprendre. Ce n'est que longtemps, longtemps, à travers le temps, que l'humanité a fini par découvrir ce message du patriarche, ma femme, c'est ma soeur. Ça va jusque-là? Bien. Vous avez compris le problème? Et aujourd'hui, vous avez ce vocabulaire, et par exemple, dans les ordres, mon frère, ma soeur, je ne sais pas. Eh bien, le fait que si ça veut dire, si c'est sa sœur, alors ils ne le mettront pas à mort. Ils pourront prendre sa sœur sans le mettre à mort. Mais c'est là qu'est l'invraisemblance. Ça veut dire qu'Abraham, tête baissée, va se jeter dans la gueule du loup, c'est dans sa préhension. Donc ça veut dire que c'est bloqué comme expliquer, comme type d'explication. Quel serait le raisonnement d'Abraham? Étant donné que ce serait un blasphème que tu sois ma femme, dis que tu es ma sœur. Alors ça veut dire que c'est sûr qu'il la condamne. Bon, c'est sa femme. Par conséquent, il condamne sa femme à quelque chose de grave, au point de vue de la loi morale. Donc c'est invraisemblable. Ça veut dire tout à fait. Ça veut dire qu'Abraham s'expose à ce danger, dans cette mise en danger. J'ai un message à déclarer et j'explique que c'est dangereux. Ici, il expose. Et au fond, vous comprenez que c'est le premier exemple que nous avons de ce que représente le danger du voyage de l'exil pour Israël. Il y a quelque chose à dire, et c'est dangereux. Vous racontez cette histoire au niveau d'Israël et de la Torah. Mais pour ça, il me faut une introduction. Toute explication que je suis en train de vous donner. Et puis, je sais que dimanche prochain, vous allez avoir un exposé de Mme Amadovanetti sur ce problème. Elle va sûrement vous citer ça par la bande en disant, je le dis à l'avance, mais ne lui dites pas que je vous ai dit, sinon là. En disant, oui, mais ça, c'est des explications d'hommes. Okay? Retenez bien ce que je vous dis. Je vais raconter cette même histoire dont l'exil d'Israël en général. Alors voilà, l'explication sur laquelle je me base à partir de maintenant vient du Rav Etzraïm. Le Rav Etzraïm m'a posé la question suivante à propos des sacrifices. Étant donné qu'il y a une règle absolue, on ne peut faire les sacrifices que dans le temple. Et Shrita Trout, ça veut dire un sacrifice fait en dehors du temple, c'est complètement interdit. Bon. Mais alors il note qu'il n'y a pas Shrita Trout plus grande que le sacrifice de Pessah qui s'est fait en Égypte même. La halakha précise ensuite, dans un pilule extrêmement précis, que oui, mais c'était pas le sacrifice de Pessah ne se faisait pas dans des endroits habités par les Égyptiens. Il se faisait que dehors des villes ou dans les endroits habités que par les Hébreux. Donc à Touma, l'impureté n'était pas aussi grande. Et le fond du problème reste. Comment se fait-il qu'un sacrifice aussi important, le sacrifice de Pessah, ait été fait chout, ça veut dire en dehors de l'endroit de la Kedusha? Alors c'est là que le Rav Etzraïm a établi un principe extrêmement important que nous avons retrouvé par la suite, beaucoup plus développé, mais la racine est la même dans l'enseignement de Rafou, le père déjà. C'est qu'il y a deux types de sainteté. Il y a la sainteté intérieure et la sainteté qu'il y a à l'extérieur. La sainteté qu'il y a à l'extérieur, c'est-à-dire la sainteté qu'il y a là où c'est profane. C'est-à-dire la sainteté intérieure,